Le journal présenté par Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement à Nice aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité. Le Premier ministre a fait plusieurs annonces en faveur des forces de l'ordre. Stéphane Perre nous les détaille en début de journal. De plus en plus de cris d'alarme sur une seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Le nombre de nouvelles contaminations est à nouveau en hausse en France. Les clusters se multiplient. Un village de Mayotte se reconfine, vous l'entendrez. Et face à cela, le gouvernement français veut renforcer ses contrôles aux aéroports. Très insuffisant, nous dira l'infectiologue Éric Combe. Et toujours à propos du Covid, nous irons en Afrique du Sud où les statistiques sur la pandémie sont faussées selon les scientifiques. Et dans le reste de l'actualité, une tuerie au Darfour, signe d'une violence endémique, qu'une violence endémique demeure, nous dira le spécialiste Marc Lavergne. Et Berlin, qui faute de pouvoir organiser sa traditionnelle marche des fiertés dans ses rues, l'organise sur Internet. Opération séduction des forces de l'ordre aujourd'hui à Nice avec la visite du Premier ministre Jean Castex, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Une visite 5 jours après une fusillade dans le quartier des Moulins, quartier sensible de Nice. Le chef du gouvernement s'est exprimé. Il a affiché sa détermination à lutter contre l'insécurité avec des annonces en premier lieu pour la ville de Nice, Stéphane Perre.
Le Premier ministre annonce, mais c'était attendu, l'affectation en urgence de 60 policiers en uniforme dans les prochaines semaines dans l'agglomération. 60 policiers, ce sont les effectifs qui manquaient à la police de proximité à Nice, selon les syndicats policiers locaux. Il faut noter qu'il ne s'agit pas de création de postes. Ce seront très certainement une 60aine de policiers sortis d'école qui rejoindront la sécurité publique du département. Et puis les policiers des Alpes-Maritimes se voient aussi satisfaits sur une de leurs anciennes revendications, celle d'une prime de fidélité pour les fonctionnaires sur le même poste depuis plus de 2 ans. Et puis, au niveau local, le Premier ministre annonce aussi le lancement d'une expérimentation à Nice de l'extension des compétences de la police municipale. C'est une vieille demande des élus locaux. En clair, l'idée, c'est de réviser la convention qui partage les tâches, les missions, les quartiers entre police municipale et police nationale pour permettre, par exemple, aux policiers municipaux de patrouiller et d'intervenir dans le quartier des Moulins, où a eu lieu la fusillade, ou dans le quartier de l'Ariane, l'autre quartier de reconquête républicaine de la ville de Nice. À noter que le Premier ministre n'a annoncé aucune mesure de prévention ou de développement économique pour le quartier des Moulins.
Alors, Jean Castex a aussi annoncé des mesures sur le plan national et notamment la forfaitisation des délits de stupéfiants, Stéphane.
Oui, la mesure est cette fois nationale. Elle avait été évoquée par Emmanuel Macron dans son programme présidentiel pour lutter contre le trafic. La forfaitisation des délits de stupéfiants sera donc généralisée à la rentrée. Elle est censée avoir une action directe sur les points de vente les plus importants sur le territoire. Elle accentue la pression sur les clients pris en flagrant délit de consommation de stupéfiants, des clients qui pourront être sanctionnés immédiatement et devront s'acquitter d'une amende d'un forfait d'environ 200 euros ou de plusieurs centaines d'euros quand l'amende est majorée. La mesure était expérimentale jusque-là dans certaines communes. On a donc peu de recul sur son efficacité réelle. Il faut bien comprendre que cette forme d'amende anti-cannabis principalement n'exonère pas les clients de poursuites judiciaires, de poursuites pénales, mais elle va certainement soulager les services de police en termes de procédure et donc désengorger en bout de chaîne la justice.
Stéphane Perre à Nice, des annonces de l'exécutif plutôt appréciées par les syndicats policiers. La calinothérapie, c'est toujours mieux que les mots déplacés de notre précédent ministre de l'Intérieur, mais ce que l'on veut, ce sont des actes. Réaction de David Olivier Reverdy, délégué national du syndicat Alliance Police Nationale. Plus de 1000 contaminations en 24 heures en France. C'est la Direction Générale de la Santé qui alerte. La circulation virale est en nette augmentation avec des niveaux comparables à ceux de la fin de la période de confinement. Elle ajoute même, je cite, qu'une bonne partie des progrès que nous avions effectués dans les premières semaines de déconfinement a été effacée. Les clusters et chaînes de transmission se multiplient en France métropolitaine ainsi que dans les territoires outre-mer. Mayotte notamment, où la situation a toujours été préoccupante, comme la Guyane et la Mayenne, Mayotte a été classé département à vulnérabilité élevée. Après la découverte de nombreux cas positifs dans un village du nord de l'île, Tsamboro, la population est temporairement reconfinée. C'est la première fois en France depuis début mai, sur ordre de la préfecture, Thibault Lefèvre.
Tsamboro, un des 80 villages mahorais, un peu plus de 2500 habitants du nord de l'île, concernés donc par ce reconfinement, avec depuis ce matin et pour les 2 prochaines semaines, des déplacements limités au strict nécessaire pour le travail, l'alimentation et la santé, et un couvre-feu entre 20h et 5h du matin. La raison, environ 25 patients testés positifs cette semaine. Jérôme Millet est le sous-préfet de Mayotte.
C'est une décision qui est totalement proportionnée à la découverte de ces cas de Covid. C'est rendu nécessaire par notre volonté de ne pas diffuser davantage le virus.
La diffusion du virus est pour le moment bien contrôlée à Mayotte, avec aucune entrée à l'hôpital ces dernières 24 heures. Un patient actuellement en réanimation, alors qu'ils étaient 25 lors du pic épidémique. Ce que craignent les autorités, c'est la possible importation de nouveaux cas, et notamment des Comores, à une cinquantaine de kilomètres en face de Tsomboro.
C'est un point de vigilance, d'ailleurs, que des étrangers en situation régulière pénètrent sur le sol mahorais, ils sont en effet interpellés et dépistés. Et dans l'hypothèse où ils ont le Covid, ils sont isolés pour éviter la diffusion du virus.
Tsomboro est actuellement le seul village reconfiné de l'île et la préfecture ne prévoit pas, pour le moment, d'isoler d'autres zones.
Et face à cette recrudescence des nouvelles contaminations, la France veut renforcer ses contrôles dans les aéroports et rendre les tests obligatoires dès le 1er août pour les voyageurs provenant de 16 pays classés rouges, dont les États-Unis, le Brésil ou l'Algérie par exemple. Une mesure bien loin de convaincre Éric Combes, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pour lui, on ne fait clairement pas assez pour enrayer une seconde vague du virus. Écoutez.
Sur le plan épidémiologique, on sait très bien que la seule solution efficace quand on ne veut pas fermer les frontières, c'est la quarantaine. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Allemagne, en Italie, dans les pays du Royaume-Uni, enfin dans beaucoup de pays européens. Donc pourquoi ça ne se passe pas comme ça en France reste une source de mystère pour moi. Mais bon, vous savez, quand on teste quelqu'un à l'arrivée, s'il a été infecté dans l'avion ou à l'aéroport ou dans son trajet pour aller à l'aéroport, bien évidemment, vous n'allez pas le dépister. Il va déclarer l'infection quelques jours plus tard et il va démarrer des chaînes de transmission. Et ça, c'est absolument évident. Et des exemples comme ça, je peux vous en citer plusieurs. J'en ai encore eu un à gérer cette semaine. Donc ça ne sert presque à rien de dépister à l'arrivée aux aéroports. Ou alors il faut dépister les gens tous les 3 jours ou tous les 5 jours pendant toute la durée de l'incubation de la maladie, c'est-à-dire 15 jours après qu'ils aient remis les pieds en France. Vous vous rendez compte, il y a des voyageurs qui viennent du Mexique par exemple, on sait que l'épidémie est en train d'exploser, et puis on peut rentrer en France comme ça sans test, c'est aberrant. Donc non seulement la liste est trop restrictive des 14 pays, mais en plus, de toute façon, le test c'est juste pour sensibiliser les gens éventuellement. Mais vous pouvez très bien démarrer la maladie au bout de 10 jours après votre retour et démarrer des chaînes de transmission, puisque je vous rappelle quand même un point fondamental, on est contagieux avant que les symptômes soient apparus.
Éric Combes, joint par nos confrères de France Info. Et la pandémie dans le monde, elle, continue de s'étendre avec plus de 280 000 nouveaux cas quotidiens recensés jeudi et vendredi, soit 2 chiffres records qui entraînent de nouvelles restrictions un peu partout. On en est à près de 640 000 morts dans le monde. L'Afrique du Sud est désormais le 5e pays le plus touché avec plus de 400 000 cas. Pourtant, le taux de mortalité reste assez faible avec près de 6 000 morts, très loin par exemple des 45 000 morts enregistrés par le Royaume-Uni, qui compte pourtant moins de cas que l'Afrique du Sud. Alors pourquoi un tel écart dans les chiffres? Les scientifiques dénoncent des statistiques officielles sous-estimées et pour cause. Par rapport à l'année dernière, les décès naturels sont en hausse de 60% ces dernières semaines. À l'approche du pic de l'épidémie, la situation sanitaire se dégrade dans le pays. À Johannesburg, Claire Bargelès.
En première ligne face à la crise, le personnel soignant sud-africain est particulièrement touché par l'épidémie. Zanele, infirmière, fait partie des quelques 13 000 professionnels contaminés.
L'environnement dans lequel on travaille nous expose beaucoup et on travaille sans équipement adapté. Donc on a constamment peur d'être la prochaine personne à l'attraper.
La tempête est sur nous, martèle désormais le président. Cyril Ramaphosa a donc décidé de renforcer certaines mesures et de fermer à nouveau les écoles publiques. C'est le soulagement pour les syndicats d'enseignants, mais pas pour Loisy, 17 ans, qui s'apprête à passer son bac.
Nous n'avons plus beaucoup de temps et nous devons apprendre beaucoup de choses. On n'a terminé aucun programme dans aucune matière. Lorsque l'on était en confinement, on avait des cours sur WhatsApp, mais c'était très dur de tout comprendre.
Le gouvernement regrette aussi le relâchement des citoyens. Avec un confinement débuté fin mars, certains, comme Casey, commencent à trouver le temps long. Même si les rassemblements sont interdits, il est venu au parc avec une dizaine d'amis.
C'est la première fois que l'on revient au parc. Les chiens n'en peuvent plus de rester à l'intérieur, alors on est venu prendre le soleil. Oui, on a peur de l'attraper, mais bon, cela fait 4 mois maintenant que l'on est en confinement. Donc on est fatigué de suivre toutes les règles et les restrictions de distanciation sociale.
L'Afrique du Sud compte plus de la moitié des cas recensés sur le continent africain.
Claire Bargelès. Et au Brésil, autre pays particulièrement touché par la Covid-19, on apprend cet après-midi que son président, Jair Bolsonaro, est désormais négatif au test du nouveau coronavirus. On l'a appris il y a quelques minutes, une enquête préliminaire a été ouverte hier pour crime contre l'humanité. Enquête ouverte par le parquet national antiterroriste contre le chef des renseignements militaires pendant le génocide rwandais de 1994. Il vivrait en France, d'après Mediapart. Le journal affirme l'avoir localisé près d'Orléans. 20 paysans du Darfour croyaient pouvoir retrouver et retravailler leurs terres après 15 ans d'absence due à la violence dans cette région. Ils ont été tués hier par des hommes armés alors qu'ils revenaient sur leurs champs. Les faits se sont passés à 90 km de Niala, la capitale du Darfour Sud. Alors si la guerre civile au Darfour qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU a baissé d'intensité, notamment depuis la chute du président Omar el-Béchir en avril 2019, cette tuerie montre qu'une violence endémique demeure. L'analyse de Marc Lavergne, spécialiste du Moyen-Orient et du Soudan et qui dirige un laboratoire à l'université de Tours.
Il y a à peu près 2,5 millions de personnes qui ont été déplacées depuis les années 2003-2004 de leur village au Darfour. Donc maintenant, elles sont sous la coupe et entretenues, on dira, par le gouvernement. Mais ces gens veulent évidemment rentrer chez eux. Mais leurs terres ont été occupées, leurs maisons ont été occupées par leurs bourreaux, hein, qui étaient des mercenaires, qui étaient ce qu'on appelait les janjaouides, les cavaliers du diable, hein, qui étaient à la solde du gouvernement de Khartoum, mais en particulier des services de sécurité, de renseignements qui sont l'état profond du Soudan, qui subsiste encore aujourd'hui malgré la transition démocratique. Donc ces gens voulaient rentrer chez eux en se disant que les temps avaient changé, mais les gens qui sont sur place sont armés, ça a provoqué des clashs évidemment, ça n'est pas la première fois que ça se produit, et le gouvernement central est très absent, et d'une manière un peu dramatique, parce qu'on a l'impression que c'est un manque de considération pour ces régions qui étaient en rébellion contre le pouvoir central autrefois, aussi bien le Darfour que les Monts Nouba, des gens qui se considèrent comme exclus de la manne gouvernementale, hein, mais des projets de développement et de l'État soudanais en quelque sorte. Donc on a cette impression un peu inquiétante un an après la chute d'Omar el-Béchir, de ce que le pouvoir est resté entre les mains des gens du centre du pays qui ignorent totalement la problématique de ces régions qui étaient en dissidence et qui aujourd'hui sont en négociation avec des représentants du gouvernement à Djouba, la capitale du Sud-Soudan, mais qui réclament justice tout simplement et qui veulent retourner chez eux.
Marc Lavergne, joint par Nabila Hamel. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Varsovie et d'autres villes en Pologne contre un projet du gouvernement. La Pologne veut sortir du traité européen sur les violences faites aux femmes. Le pouvoir estime qu'il va à l'encontre des droits des parents, notamment en demandant aux écoles d'enseigner l'égalité homme-femme. Des éléments de nature idéologique que nous considérons comme nuisibles, précise le ministre polonais de la Justice. Pour rappel, c'est le parti Droit et Justice qui est au pouvoir dans le pays, parti proche de l'Église catholique et en faveur d'une politique sociale conservatrice. À Berlin, personne dans les rues, mais sur Internet cette fois, pour célébrer comme il se doit la marche des fiertés. L'interdiction des grands événements en Allemagne à cause de la crise sanitaire a contraint les organisateurs à annuler la traditionnelle parade musicale et colorée dans les rues de la ville. Mais malgré cette interdiction, ils n'ont pas renoncé à leur visibilité. Avec cette année donc une manifestation virtuelle, Romain Chevalier.
Si l'ambiance de la marche des fiertés de Berlin est tout autant festive, cette année son organisation est totalement différente. Les rues de Berlin ne sont que très peu animées et colorées par quelques petits rassemblements. Coronavirus oblige, l'essentiel se déroule sur Internet. Zazie de Paris, la présentatrice de l'événement.
Nous ne sommes pas à la porte de Brandebourg, mais nous sommes ici encore plus proches de vous, car nous sommes sur l'écran, sur le téléphone, mais aussi dans vos enceintes et vos écouteurs.
Depuis un studio du centre-ville, les organisateurs diffusent en direct sur une plateforme de la musique, mais aussi des entretiens avec des personnalités de la communauté LGBT. Au total, 10 heures de streaming sont prévues. David, un Français de Berlin de 27 ans, membre de cette communauté, est ravi de cette manifestation virtuelle.
Le sujet est attaqué plus en profondeur et on ressort les côtés historiques et aussi est plus explicatif que juste une marche au final. Entre ceux qui sont là pour défendre les droits et ceux qui sont là pour faire la fête, en fait, on s'y perd un peu et on comprend pas grand-chose. Ça finit un peu en technoparade, qu'on sait qu'à la base, en fait, c'est vraiment une manifestation pour lutter pour les droits LGBTQ+.
Reste à savoir maintenant si cet événement sera tout autant suivi. L'an dernier, 1 million de personnes ont défilé dans les rues berlinoises.
Romain Chevalier. Le Texas se prépare à l'arrivée du premier ouragan de la saison dans l'océan Atlantique. Anna, c'est son nom, pourrait provoquer d'importantes inondations. Avec des vents jusqu'à 120 km/h, l'ouragan pour l'instant de catégorie 1 sur 5 devrait encore se renforcer avant de toucher les côtes texanes. En France, pas d'ouragan mais des pluies ce soir qui se renforcent de la Normandie aux Hauts-de-France. Pour demain matin, la perturbation s'estompe. Quelques pluies passagères à prévoir du centre-ouest au nord-est. Mais la perturbation laisse place à de belles éclaircies de la Bretagne à la Normandie. Un ciel toujours bleu et ensoleillé des Pyrénées jusqu'aux Alpes et la Méditerranée. En matinée, il fera 21 à Marseille, 14 à Brest, 19 à Strasbourg et Bordeaux, 17 à Paris, 16 à Lille. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue et Nasser Moussaoui à la technique.